Face à l'info sur la première.
On ne pouvait pas manquer de parler du Front populaire en France, mais aussi chez nous, en Belgique, et puis des avancées sociales. Alors, tout ça ne se fait pas en claquement de doigts, au contraire, il y a des grèves qui aussi entrent ambiance joyeuse et crainte, des conquêtes sociales, la reconnaissance du statut syndical, il y a les congés payés, 15 jours, rendez-vous compte, il y a des hausses salariales, mais toutes les promesses de l'avant de l'été vont-elles tenir à partir de septembre, ça fait partie aussi des désillusions. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'emblée ici de redécouvrir toute l'ambiance du Front populaire qui unit toute la gauche, peut-être, nous y reviendrons en France. Et puis, vous entendrez Léon Blum aussi, qui est une des figures emblématiques.
En cœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République.
L'union électorale permet à la gauche d'emporter plus de 60% des sièges. La progression des communistes est spectaculaire. Ils sortent de leur isolement, tandis que les radicaux cèdent du terrain. Les socialistes sont maintenant la première formation de la nouvelle majorité. C'est donc à Léon Blum que revient la charge de former le gouvernement.
Je ne me présente pas à vous aujourd'hui comme un homme déjà accablé d'avance sous le poids des charges et des responsabilités qui l'attendent. Je ne viens pas ici en vous disant « Je n'ai pas voulu cela. Si, j'ai demandé cela et j'ai voulu cela. »
L'électorat ouvrier s'impatiente. Baisse des salaires, chômage en hausse, la crise les frappe cruellement. Un prodigieux mouvement social submerge alors le pays. Dès le 14 mai, les métallurgistes parisiens se mettent en grève. Une grève immense qui va bientôt gagner la France entière et presque spontanément s'étendre à de nombreux corps de métier. Les revendications se multiplient. Les ouvriers occupent les entreprises, constituent des comités de grève, organisent des bals et des banquets dans les usines. Et c'est au son de l'accordéon que l'on attend fiévreusement la formation du nouveau gouvernement d'Union populaire.
Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère.
Le gouvernement de Léon Blum est enfin investi le 4 juin 1936.
Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève.
Moscou a jugé préférable que le parti de Maurice Thorez reste en dehors du gouvernement Blum.
Nous accorderons au gouvernement socialiste une collaboration étroite, fraternelle et sans éclipse. Le parti communiste travaillera à faire une France libre, forte et heureuse.
Les grèves ne s'arrêtent pas pour autant. Les ouvriers, s'ils soutiennent le Front populaire, ne veulent pas relâcher la pression.
Pour les revendications et pipites, ouais !
Le patronat et la CGT négocient à l'hôtel Matignon des accords qui seront signés le 7 juin. Mais le 11 juin, ils sont encore plus d'1,5 million à faire grève, quand le jour même au Parlement, Léon Blum fait voter la loi sur les conventions collectives et les congés payés. Puis la semaine de 40 heures. Petit à petit, les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances.
Avec nous pour commenter cette fabuleuse épopée, en quelque sorte, le professeur Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et qui vient de sortir chez Talendier l'histoire du Front populaire, l'échappée belle. Et puis avec nous également Pierre Laroutourou, économiste et porte-parole du collectif La Nouvelle Donne. Bonsoir messieurs, bonsoir professeur Vigreux.
Bonsoir.
C'est vrai que ce que l'on vient d'entendre, dans un raccourci bien sûr, mais donne un sentiment de tournis. On est en quelques mois dans une grande bascule. On imagine que pour les ouvriers de l'époque, c'était inespéré d'obtenir autant de droits en aussi peu de temps.
Alors oui, une véritable révolution culturelle, on pourrait presque dire, puisque en fin de compte en une nuit, hein, les accords Matignon du 7 au 8 juin, et puis bien sûr le projet et le programme du Front Populaire tel qu'il avait été établi par l'Union des Forces des Gauches permettent de changer la vie des ouvriers. Mais c'est un processus qui peut paraître rapide, qui peut paraître immédiat au regard du mouvement des grèves, de l'arrivée au pouvoir de Léon Blum, et puis sur le fait que le gouvernement du Front Populaire, ou les gouvernements ne durent que 2 ans, hein, de juin 1936 à avril-mai 1938, après, puisque les radicaux gouvernent avec les droites, on ne peut plus vraiment parler de Front Populaire et on reviendra sur les acquis sociaux. Mais en même temps, il faut le lire au regard aussi d'une histoire plus longue, celle de la crise économique et sociale des années 30, la crise politique de la France liée à 34. Donc il a fallu du temps pour faire l'union. L'union n'était pas possible, c'était souvent un combat, puisque les forces de gauche étaient divisées et étaient parfois des véritables frères ennemis. Mais il est vrai qu'en peu de temps, on change la vie des ouvriers.
Pierre Laroutourou, est-ce que le Front Populaire 1936, ce moment de la grande bascule des droits sociaux, est-ce que ça fait encore rêver aujourd'hui un penseur comme vous et un mouvement comme la Nouvelle Donne ?
Oui, c'est un modèle. Ça montre que si on a une volonté politique et si les citoyens ont des demandes claires, le progrès social est possible. Je vous rappelle que Léon Blum n'était pas favorable au début. Quand Léon Blum arrive, les congés payés, ça n'est pas dans son programme. Il n'a jamais voulu porter l'idée des congés payés. Et c'est parce que les citoyens, malgré la crise, on est quelques mois, quelques années après le début de la crise de 29, et au lieu de se résigner à baisser les salaires parce que les concurrents font pareil, les ouvriers, les syndicats ont des revendications assez audacieuses. Donc ça montre que c'est possible, si on a des idées claires, de continuer le progrès social. Et les congés payés, qui paraissait une hérésie, le patronat disait les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Finalement, ces 2 semaines de congés payés se sont plutôt très bien passées. Puis on a continué et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui profitent du congé payé et des millions de gens en Europe qui ont du travail grâce au tourisme. Donc ça montre que si on a une volonté politique, même en période de crise, il y a des choses qui sont possibles. Donc ça montre aussi que tout n'est pas possible. Les 40 heures ont été plutôt un échec. Autant les congés payés ont été un succès, autant parce que assez vite, on va hélas vers l'économie de guerre. Autant les 40 heures ne seront effectives pour la plupart des gens qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Dernier point, il y a des choses très positives dans le Front Populaire. Et puis pour le Basque que je suis, il y a quand même le souvenir de Guernica, quand l'aviation nazie aide Franco pour bombarder Guernica et que la France regarde ailleurs et décide de ne pas intervenir. On ne va pas refaire l'histoire, mais si le Front Populaire, si la France était intervenue, peut-être que Hitler se serait calmé en voyant qu'il y avait une solidarité et que les autres pays ne le laissaient pas dans sa logique d'expansion.
Oui, c'est d'ailleurs le sujet que nous aborderons demain dans cette émission. Jean Vigreux, lorsque un front populaire naît, on imagine qu'il y a un front du refus en face.
Ah oui, bien sûr, il ne faut pas croire que ça se passe si bien que ça. La logique bipolaire en France n'existe pas encore en 1936. Il ne faut jamais perdre de vue que pendant très longtemps, on a eu une logique plutôt éclatée. Un parti radical qui était un parti pivot au sein de la Troisième République, qui tantôt gouvernait avec la droite, tantôt avec les gauches. Un parti communiste qui est hors du jeu, on va dire, depuis sa naissance, et surtout avec la période sectaire classe contre classe initiée en 1928. Donc les gauches ne sont pas unies. Et de l'autre côté, les droites, une partie des droites se retrouve dans le champ magnétique des fascismes, avec bien sûr la poussée des ligues extrême droite qui en appelle au sauveur, alors soit le lieutenant-colonel de la Roque, soit les Francis de Bucard, ou même dans le monde rural, les chemises vertes de Dorgère, et puis aussi encore une droite républicaine avec la RD qui essaye toujours de retrouver les radicaux sur leur terrain. Donc on est dans une logique de tension, de bipolarisation qui est très forte, qui se mène depuis, en fin de compte, juillet 1934, Alliance socialiste et communiste. Octobre 1934, les radicaux entrent dans la danse, en quelque sorte, et puis surtout 1935, qui est la consécration du Rassemblement populaire, avec le 14 juillet 1935, où l'on prête serment pour dissoudre les ligues factieuses, comme on disait à l'époque, et rester unis dans ce front antifasciste, mais aussi pour le pain, la paix et la liberté, donc le programme de janvier 1936 qui est élaboré. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que les gauches, elles ne progressent pas tant que ça par rapport à 1932, c'est tout simplement parce que le Parti radical est rentré dans la coalition qu'on a l'arrivée du Front populaire au pouvoir. Mais comme vous le disiez en introduction, la nouveauté, c'est que la SFIO est devant les radicaux et puis également que le PC fait une percée et devient un parti national passant de 10 députés à 72 députés.
Je vous propose d'ailleurs de nous replonger deux ans avant le Front populaire, en 1934, ce fameux mois de février, le 6 février, tout faillit basculer, les ligues d'extrême droite mobilisent, il y a pendant toute la nuit, à hauteur de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés, des heurts violents, plusieurs morts, des milliers de blessés, c'est un coma traumatique, la France se réveille en état d'apesanteur, et puis six jours après, le 12 février, c'est une immense manifestation, ou plutôt deux cortèges, d'un côté socialiste, de l'autre côté communiste, mais qui vont se rejoindre. On va entendre évoquer ici à nouveau à travers ce chant du Front populaire cette menace fasciste et puis on se retrouvera place de la République en entendant Léon Blum s'époumoner en appelant au Front uni.
Vous êtes fasciste, le diable est patafiore. Oui, messieurs, nous avons tous vu ça. Peu sont fallus la République fasse le grand saut à tout jamais. Pour cela, certains hommes politiques avaient trouvé l'accord le plus parfait.
Citoyens, la province soulevée tout entière, Paris rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs, vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible, vive le peuple ouvrier.
Et on entend ici, Pierre Laroutourou, combien à la fois l'appel à l'unité est fort et en même temps on sait ce qui se passe en face. Est-ce que l'on peut véritablement accoucher d'avancées sociales dans un climat aussi binaire ?
C'est mieux de provoquer un rassemblement et un consensus. On voit bien que, mais qu'en France, on a beaucoup de difficultés, ça reste d'actualité, à se mettre autour d'une table. Mais en même temps, ce que fait le Front populaire, ils essayent d'améliorer la vie quotidienne de millions de gens. Je parle sous le contrôle de Jean Ligreux, mais je crois que c'est aussi en 1936 qu'on met en place l'office du blé, parce qu'il y avait une crise agricole, comme aujourd'hui. Le prix du blé s'effondrait. Et donc, on se dit que laisser le marché, la main invisible du marché, ça ne marche pas, ni en agriculture, ni ailleurs. Et on met en place un outil de régulation. Et ça reste vrai aujourd'hui. En Belgique, comme en France, comme en Allemagne, il y a des milliers de paysans aujourd'hui qui souffrent parce que le prix du lait s'effondre aujourd'hui en 2016. Et il y a besoin de régulation, comme c'était le cas en 1936. Donc le Front populaire, sans l'idéaliser, mais le Front populaire, c'est pas seulement les congés payés pour les ouvriers des grandes villes, c'est aussi des actions pour sécuriser le revenu des paysans.
Jean Vigreux, c'est un climat insurrectionnel entre 34, 36 et ensuite, selon que l'on soit de gauche ou de droite, on se sent assiégé par l'autre ?
Insurrectionnel, le terme est peut-être en partie faux, quoique avec le 6 février 34, on voit bien les logiques, comment les ligues ont marché sur le Parlement le jour de l'investiture de Daladier, donc on s'en prenait au système parlementaire et au régime républicain, mais en tout cas de fortes tensions, ça c'est certain, entre les gauches et les droites, parce que l'image des congés payés, l'image des grèves, l'image de la joie et des joies que l'on a dans les différentes photographies ne doivent pas masquer les tensions, les appels au meurtre. N'oublions pas quand le 13 février 1936, Léon Blum est victime d'un attentat de l'extrême droite. Ce sont les futurs fondateurs de la Cagoule et du XAR qui s'en prennent à Léon Blum physiquement. Donc, il faut bien voir que c'est une période où le coup de poing est facile, où le coup de feu est facile. Donc, il y a cet enjeu qui est fortement présent. Et d'autre part, au-delà de cette logique de l'affrontement, au-delà de cette logique de la tension, bien sûr, l'union des gauches, elle est permise. Alors, il y a la manifestation du 12 février, mais il y en a une avant le 9 février, qui a été organisée par le PC, qui était interdite, qui a aussi des morts et où certains militants socialistes sont venus en criant unité et de la CGT unité. Et la réunification syndicale de la CGT et de la CGTU en mars 1936 achève en quelque sorte le mouvement et permet de comprendre sa large dimension.
Un mot quand même de réaction, Jean Vigreux, sur ce que Pierre Laroutourou rappelait, ce que d'aucuns considèrent comme la trahison du Front populaire français, Léon Blum, par rapport au Frente Popular de l'Espagne attaqué par les fascistes.
Alors,
de Franco.
c'est difficile parce que c'est a posteriori que l'on peut dire la trahison, me semble-t-il, mais après, on va rentrer dans un débat sans fin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a les archives de Léon Blum qui sont revenues, puisqu'elles avaient été saisies par les Allemands et ensuite elles se retrouvaient en Union soviétique et elles sont revenues en France que dans les années 90-2000. Toutes les archives d'ailleurs de la période sont revenues comme ça. Et ce qui se joue, c'est trois choses. D'abord, Blum, il a été élu sur un programme Pain, Paix, Liberté. Un mois après, il y a la guerre. Donc, il considère que c'est une trahison par rapport au mandat qu'il a du peuple, puisque toujours ce qu'il va évoquer, c'est la loyauté par rapport au mandat qu'il a lié à la paix. Deuxième chose, ses alliés radicaux, n'oublions pas, on est en 1936, c'est 20 ans après Verdun, sont marqués par le pacifisme. Ils ne veulent pas entendre parler de guerre. Même si Léon Blum va laisser passer des avions dans un premier temps et des logiques quand même d'aide avec Jean Zay, Pierre Cotte et d'autres qui permettront cela. Alors bien sûr, c'est le sursaut des brigades internationales, des brigadistes qui vont montrer cela. Et puis enfin, troisième chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les alliés britanniques, dans le cadre de l'entente cordiale, ne veulent pas intervenir, ne veulent pas entendre parler d'intervention, mettant sur le même plan communistes et fascistes dans la logique du modèle de démocratie libérale britannique, il est hors de question d'intervenir. Donc, il est pris dans cet étau et peut-être qu'il ne faut pas le lire à l'aune de ce qui arrive après, parce que bien sûr, on sait ce qui arrive après, donc on peut tout de suite mesurer les fautes, mais l'histoire, elle se fait sur le présent, elle ne se fait pas dans le rétroviseur.
Je vous propose de nous retrouver dans un instant après cette brève pause pour parler quand même de ces fameux acquis sociaux et notamment de ces emblématiques congés payés.
Soir première,
face à l'info.
En deuxième partie de cette émission consacrée à 1936 et au Front populaire français, impossible de faire évidemment l'impasse, ce serait ça.